Bonjour, c'est Jacques Benhamou. Je vous attends chaque premier jeudi du mois à partir de 13h dans mon émission Côté Jardin sur notre radio RCJ. L'occasion de découvrir avec moi des personnalités de tous les horizons sous un angle nouveau avec plein d'anecdotes.
RCJ, à l'écoute de votre vie. RCJ Midi, Elsa Parienté.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez RCJ, les midis, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition, les derniers développements depuis l'arrivée en Israël, depuis cette opération israélienne lancée depuis 5 jours contre la République islamique d'Iran. On reviendra notamment sur la conférence de presse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avec Miri Maman, correspondante en Israël. Ce sera dans le journal de Laurence Goldman, le billet d'humeur d'Aurélien Veil, ensuite à la guerre d'Iran, réaction de la communauté internationale à l'opération israélienne contre les installations nucléaires iraniennes et évolution de la relation bilatérale entre la France et Israël. On en parlera avec notre analyste politique Mickaël Darmon, puis notre invité ce midi, Mickaël Alouche, co-auteur de la bande dessinée Monsieur Guévo veut guérir de la Shoah. Et en fin d'édition, la recommandation médicale du professeur Tim Sit, la réflexion philosophie de Gabriel Alperne et l'histoire juive du jour avec Jérôme Attel. On fait tout de suite un point sur l'actualité sur RCJ.
Le journal.
Bonjour Laurence.
Bonjour Elsa, bonjour à tous. 5 jours après le déclenchement de l'opération israélienne Am-Kelavi contre les installations nucléaires et stratégiques iraniennes, Israël est toujours sous le feu des attaques de missiles. Ce matin, peu avant 8h, les sirènes d'alerte ont retenti dans le centre et le nord du pays, invitant les Israéliens à se rendre dans les lieux sécurisés. Une vingtaine de missiles ont été tirés depuis l'Iran. La plupart ont été interceptés par le Dôme de Fer. L'un d'eux s'est toutefois abattu sur un abri d'autobus dans la ville de Herzliya, près de Tel Aviv. Des dégâts mineurs sont par ailleurs à déplorer dans la localité de Ramat Hasharon, où des débris de missiles ont provoqué l'incendie d'un bâtiment. Autre incendie également sur un entrepôt de la région suite à la chute d'un impact de missile. Aucune victime n'est à signaler lors de cette attaque. Une quinzaine de personnes ont été légèrement blessées alors qu'elles se rendaient dans les abris, selon un bilan du Magen David Adom. La nuit dernière, l'Iran a lancé 3 salves successives de missiles en direction du territoire israélien. Les alertes ont été déclenchées dans tout le pays à minuit, puis à 3h30 et à 4h30 du matin. Une fois de plus, ce sont le centre et le nord du pays qui ont été visés. Aucune victime ni dégâts ne sont à déplorer. Sachez également qu'environ 1300 habitants de Petah Tikva ont été évacués de la ville ces dernières heures. Un millier d'entre eux sont hébergés dans des hôtels. Une 60aine d'habitants de Haïfa ont également été évacués vers des hôtels. Ces déplacements font suite aux tirs de missiles survenus dans la nuit de dimanche à lundi. Les autorités israéliennes estiment que la plupart d'entre eux pourront rentrer chez eux d'ici quelques semaines. Rappelons que le bilan des victimes israéliennes depuis le début des attaques iraniennes s'élève à 24 personnes. Et pendant ce temps, l'aviation israélienne poursuit ses opérations militaires en Iran. Tsahal affirme ce matin avoir tué le nouveau chef d'état-major du régime des Mollahs. Ali Shadmani était le principal conseiller militaire du guide suprême iranien Ali Khamenei. Il a trouvé la mort dans une frappe menée au cœur de la capitale, Téhéran. Ali Shadmani avait été nommé à la tête des forces armées iraniennes après l'élimination de son prédécesseur au début de l'opération israélienne Réveil du Lion jeudi dernier. L'armée israélienne annonce par ailleurs avoir conduit la nuit dernière plusieurs frappes de grande envergure contre des cibles militaires dans l'ouest de l'Iran. Des dizaines d'infrastructures de stockage et de lancement de missiles sol-sol ont été touchées, ainsi que des lanceurs de missiles sol-air et des sites de stockage de drones. Hier, des frappes ont visé le siège de la télévision iranienne d'État. Une attaque qui aurait fait 3 morts, selon un bilan diffusé ce matin par la chaîne. Et puis, selon le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les 15 000 centrifugeuses de Natanz, la plus grande usine d'enrichissement d'uranium d'Iran, ont été endommagées ou détruites par l'armée israélienne. Le Premier ministre israélien a pris la parole hier soir au cours d'une conférence de presse. Benjamin Netanyahou a détaillé les premiers résultats de la campagne militaire en cours contre les programmes nucléaires et balistiques iraniens. Il a évoqué l'élimination du réseau de défense aérienne dans l'ouest de l'Iran et la destruction de la moitié des drones iraniens. Leurs systèmes de radar clé ont également été touchés. Israël contrôle désormais le ciel de Téhéran. Nous avons pavé une autoroute aérienne vers la capitale iranienne, a déclaré Benjamin Netanyahou, précisant que le leadership sécuritaire iranien, y compris 3 chefs d'état-major, a été éliminé. Benjamin Netanyahou a conclu : nous évacuons la population et la population part. Nous sommes en route vers la victoire. L'Iran le comprend aussi. Alors, quels sont aujourd'hui les objectifs d'Israël dans cette opération militaire Lion debout ? Les explications depuis Tel Aviv de notre correspondante Myriam Amann.
Écoutez, pour l'instant, ce qui semble se faire, c'est que cette opération va se poursuivre, qu'il y a encore beaucoup d'objectifs à atteindre en Iran. Le Premier ministre a dressé le bilan de ces 6 jours d'opération, puisque ça fait 5 jours qu'on est attaqué par l'Iran, mais 6 jours d'opération, c'est le 6e jour, hein, c'est pas encore tout à fait 6 jours, mais c'est le 6e jour d'opération israélienne en Iran. Ce qu'on sait, c'est que 1/3 des lance-missiles iraniens ont déjà été détruits, ce qui réduit évidemment la capacité de Téhéran à tirer sur Israël. On sait qu'il y a encore beaucoup de missiles balistiques et notamment aussi des drones, mais les drones sont moins utilisés parce que Téhéran a bien compris qu'Israël avait trouvé le moyen de les intercepter avant qu'ils arrivent en Israël. Pour le moment, Benjamin Netanyahou est déterminé à continuer, à poursuivre, à viser les sites nucléaires, les sites de production de missiles, les entrepôts d'armes iraniens. Hier, on a vu aussi la télévision iranienne d'État être visée. Là, c'est la propagande iranienne aussi qui est touchée, bien évidemment. L'Iran, d'ailleurs, qui menace de viser des chaînes de télévision israéliennes. Il faut savoir que dans toutes les chaînes de télévision israéliennes, si les studios ne sont pas protégés, il y a toujours des abris à proximité. Donc, même s'ils tirent sur l'une des chaînes israéliennes, ça ne causera pas de dégâts à la communication extérieure d'Israël. Benjamin Netanyahou a également sous-entendu que l'ayatollah Khamenei n'était pas à l'abri d'une élimination. Pour l'instant, il faut savoir que c'est pas un objectif de cette opération israélienne, mais ça pourrait le devenir. Et puis, noter très important que Donald Trump a quitté le G7 et s'est rendu au Pentagone cette nuit. Il se murmure en Israël. Évidemment, ce ne sont que des rumeurs persistantes, certes, mais des rumeurs que les États-Unis pourraient rejoindre l'opération militaire en Iran, ce qui voudrait dire qu'on pourra viser plus profondément les sites nucléaires iraniens et peut-être même les détruire, parce que la difficulté pour Israël, c'est de ne pas posséder les fameuses bombes bunker, c'est-à-dire celles qui creusent avant d'exploser le sol pour atteindre ces installations qui sont parfois plus de 20-30 mètres en dessous du sol. En tout cas, pour l'instant, les Israéliens sont très résilients. On sait que c'est une longue opération qui s'annonce, à moins que l'Iran plie et annonce sa défaite, ce qui est, à mon avis, très loin d'être fait.
Myriam Amann avec Elsa Parienté. J'ajoute cette déclaration du porte-parole de Tsahal ce matin. Nous ne permettrons pas au régime iranien de posséder l'arme nucléaire et nous atteindrons cet objectif. Fin de citation. Benjamin Netanyahou a par ailleurs accordé hier soir plusieurs interviews à des médias internationaux. Le chef du gouvernement israélien a lancé un appel au peuple iranien pour qu'il se soulève contre la tyrannie. Il a également estimé qu'assassiner le guide suprême iranien Ali Khamenei mettrait fin au conflit. Selon un responsable américain, Donald Trump s'est opposé à un plan israélien visant à éliminer l'ayatollah Khamenei qui est à la tête de l'Iran depuis 1989. L'ancien ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a été lui sur le plateau de CNN la nuit dernière. Il est revenu sur l'opération militaire en cours contre l'Iran. À la question de savoir si Benjamin Netanyahou agissait dans son intérêt politique, Benny Gantz a répondu, on l'écoute.
Comprenez, l'affrontement avec les Iraniens est une affaire très sérieuse. C'est quelque chose qu'Israël n'a encore jamais fait. Jamais rien dans de telles distances tout autour de nous. Dans le conflit avec les Iraniens, il n'y a pas de droite ou de gauche. Il y a le bien et le mal, et nous sommes le bien.
L'ancien ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, sur CNN, traduction pour RCJ de Aaron Gondar. Donald Trump a quitté hier soir la réunion du G7 qui se tient actuellement au Canada. Le président américain a assuré que son départ anticipé n'avait rien à voir avec un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. C'est beaucoup plus gros que ça, a-t-il dit sans autre précision. Mais alors qu'il se trouvait à bord de l'avion qui le ramenait à Washington, Donald Trump a dit à des journalistes souhaiter une fin réelle au conflit entre l'Iran et Israël et pas un simple cessez-le-feu. Les dirigeants du G7 réunis donc au Canada ont affirmé quant à eux le droit d'Israël à se défendre dans une déclaration commune publiée hier soir. Ils affirment que l'Iran est la principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région et ajoutent, je cite, « Nous avons toujours été clairs sur le fait que l'Iran ne pourra jamais disposer d'une arme nucléaire. Nous demandons instantanément que la résolution de la crise en Iran aboutisse à une désescalade plus vaste des hostilités au Moyen-Orient, y compris à un cessez-le-feu à Gaza », écrivent les dirigeants du G7 qui appellent également à protéger les civils. Le sergent Navé Lechem, 20 ans, qui servait dans la brigade de Golani, a été tué hier au combat dans le sud de la bande de Gaza. C'est ce qu'annonce ce matin l'armée israélienne. Sa mort porte à 869 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023. Lors de ces affrontements, un officier et trois soldats du même bataillon ont été grièvement blessés. Selon les premières investigations, les terroristes ont attaché un engin explosif à un véhicule blindé de transport de troupes Merkava dans lequel se trouvaient les forces de Tsahal à Khan Younes. En France à présent, des tags injurieux et antisémites ont été retrouvés hier matin sur la façade de la permanence du Parti Socialiste à Marseille. Parti sioniste ou encore PS traître à vie, pouvait-on lire. Une plainte a été déposée dans l'après-midi. Le Parti Socialiste condamne avec la plus grande fermeté cet acte lâche et intolérable, déclare le PS ce matin sur le réseau Social X. Le militant conspirationniste d'extrême droite Martial Lenoir est jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. À 50 ans, il comparaît pour le meurtre d'Éric Casado Lopez en mai 2022. Avant de le tuer, l'accusé avait lancé un appel à la violence raciste sur ses réseaux sociaux, appelant, je cite, à éliminer les cafards et le peuple juif. Le mobile raciste n'a toutefois pas été retenu par le juge d'instruction qui a estimé qu'aucun élément de la procédure n'accréditait le fait que le crime de Martial Lenoir contre Éric Lopez ne résultait de l'origine ou de la couleur de peau de la victime. Et enfin, une nouvelle audience aujourd'hui pour Georges Abdallah, emprisonné depuis 40 ans pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens en 1982. La justice, qui lui avait demandé un effort conséquent d'indemnisation des victimes, se repenche cette semaine sur la demande de libération du terroriste. La décision rendue en novembre dernier par le tribunal d'application des peines favorable à sa libération avait immédiatement été suspendue par un appel du parquet antiterroriste.
Merci beaucoup Laurence. Midi 13 sur ACG, restez avec nous. On se retrouve dans un instant, ce sera le billet d'humeur d'Aurélien Veil.
RCJ Midi, Elsa Parienté. Et si cet été, vous faisiez la plus belle des choses, offrir un été à ceux qui n'en ont pas ?
Un enfant qui découvre la mer pour la première fois. Une personne âgée qui découvre des visages, des voix, de la chaleur humaine. Une maman seule, soulagée de savoir qu'on pense à elle. Un ado en situation de handicap, accueilli dans un centre adapté. Avec le FSJU, chaque don transforme leur été. Un été pour eux, un été pour donner. Donnez sur fsju.org. FSJU, votre cœur a toujours raison. RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. RCJ. RCJ Midi, Elsa Parienté.
Midi 15 sur RCJ. Aurélien Veil, vous revenez sur les derniers événements, la confrontation entre Israël et la République islamique d'Iran. Bonjour.
Le billet d'humeur, Aurélien Veil.
Bonjour Elsa, bonjour à tous. Il est un peu périlleux d'entreprendre l'analyse d'événements qui se déroulent en direct. L'absence de recul risque de provoquer des erreurs d'interprétation. Mais quoi qu'il soit impossible d'en deviner pour le moment la conclusion, le bouleversement géopolitique qu'elle pourrait déclencher au Moyen-Orient commande de consacrer cette chronique à la guerre qui fait rage en Iran. Vendredi 13 juin, Israël a lancé l'opération Rising Lion, ou Lion qui se dresse, une référence tirée du livre des Nombres au lion solaire, emblème de la Perse. De façon inattendue, Tsahal a procédé ce jour-là à un bombardement massif visant des installations du programme nucléaire iranien, des usines de missiles balistiques, le commandement du corps des gardiens de la révolution islamique et des forces armées iraniennes. Prenant acte de l'échec des négociations entre le gouvernement iranien et l'Agence internationale de l'énergie atomique, chargée de s'assurer que le programme nucléaire iranien reste de nature civile, Israël a décidé de frapper préventivement hommes et matériels afin d'empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique. Outre la centrale nucléaire d'Arak, l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, des sites à Ispahan, Tabriz, Arvaz, ont été visés des infrastructures stratégiques conventionnelles, des sites de missiles balistiques et des moyens de défense aérienne. L'attaque israélienne a été imprévue et massive. 200 avions de combat ont mené les actions qui ont neutralisé les deux plus hauts responsables militaires du pays, Hossein Salami, commandant en chef des gardiens de la Révolution, et Mohammad Hossein Bakeri, chef d'état-major, ainsi que les principaux responsables des services de renseignement iraniens. 9 scientifiques spécialistes des questions nucléaires ont également été visés. Ces actions constituent une nouvelle étape dans la guerre à distance que se livrent Israël et la République islamique d'Iran depuis l'accession de l'imam Khomeini au pouvoir en 1979. Jusqu'alors, en dehors de frappes limitées, la guerre suivait une stratégie périphérique dans laquelle l'Iran déléguait à des proxys le soin de mener un conflit par procuration, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, le Hamas à Gaza. Les massacres perpétrés dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023 sont l'une des pages sanglantes de cette guerre totale entre Israël et le régime des Mollahs. Comment expliquer le succès des opérations menées par Israël ces derniers jours? Raison numéro 1. Les erreurs stratégiques de l'Iran, qui ne s'est pas doté d'une force aérienne moderne, une conséquence des sanctions internationales dont le régime fait l'objet. Benjamin Netanyahou a annoncé peu après le début des opérations qu'Israël avait la maîtrise du ciel au-dessus de Téhéran. Depuis 1940 au moins, on sait que dans la guerre moderne, la maîtrise du ciel confère un avantage décisif. Raison numéro 2. L'impopularité du régime des Mollahs qui a permis aux services de renseignement israéliens de bénéficier de complicité locale et de recueillir des informations permettant de localiser les installations militaires et les casernements du commandement iranien. En effet, outre les bombardements effectués par avion, une partie des attaques vient de flottes de drones dirigées sur le terrain par des opérateurs israéliens. En septembre 2024, l'explosion simultanée de milliers de beepers de membres du Hezbollah avait démontré le degré d'infiltration des services israéliens au sein de la milice chiite libanaise. L'opération Rising Lion démontre l'infiltration du Mossad au sein de l'appareil d'État iranien et constitue un nouveau succès après l'échec catastrophique du 7 octobre. Le programme nucléaire iranien comme l'infrastructure militaire du pays ont été largement affectés par les opérations israéliennes. Il n'est toutefois évidemment pas question qu'Israël envoie des troupes au sol pour parfaire le succès. Comment donc assurer l'éradication complète des infrastructures nucléaires menant au programme militaire, alors qu'elles sont enterrées profondément? Au fur et à mesure que se confirme le succès israélien, des observateurs invitent les États-Unis à intervenir à leur tour. L'armée américaine est en effet la seule à détenir les bombes, capables de détruire les installations iraniennes enfouies sous terre. La chute de la République islamique après 45 ans de dictature constituerait un succès diplomatique et politique majeur pour Donald Trump. Mais le Qatar et Oman se sont déjà improvisés comme médiateurs pour solliciter un cessez-le-feu au bénéfice de l'Iran, en contrepartie d'une prétendue renonciation au programme nucléaire militaire. Alors que les centaines de missiles balistiques envoyés en représailles par l'Iran sur Israël ont provoqué 24 morts et des centaines de blessés israéliens, quelles sont les options possibles ? Soit l'Iran, avec l'aide du Qatar et d'Oman, parvient à négocier un cessez-le-feu en contrepartie du gel pendant plusieurs années de son programme nucléaire militaire. Soit Israël parvient à maintenir la pression et à provoquer la chute de la République islamique, dont certains hauts responsables ont déjà été vus, comme Bachar el-Assad il y a plusieurs mois, quitter le pays pour gagner la Russie de Poutine. L'effondrement du dernier soutien du Hamas ne serait pas sans effet dans la guerre à Gaza et plus largement le conflit israélo-palestinien. Les jours à venir seront déterminants. Alors que la gauche radicale en France et dans le monde a pris sans grande surprise fait et cause pour les mollahs contre Israël, quelles seront la marge de manœuvre de Benjamin Netanyahou, les décisions de Donald Trump, le succès du Qatar dans son rôle d'intermédiaire, la position de l'Arabie Saoudite, l'engagement du peuple iranien? Aucune solution politique ne pourra intervenir sans le consentement des 90 millions d'Iraniens. C'est à eux aussi qu'appartient de choisir leur destin.
Merci beaucoup Aurélien, on vous retrouve la semaine prochaine midi 20 sur RCJ, restez avec nous et dans un instant ce sera l'analyse politique de Mickaël Darmon.
RCJ midi, Elsa Parienté.
Du coup, je pense que je vais chanter...
Non mais attention, c'est moi l'attention, hein. c'est pas la démocratie, c'est une dictature ici, c'est moi qui décide. Hein.
Rire pour changer des vies. Prenez vite vos places pour une soirée exceptionnelle proposée par le FSJU. Samuel Bondy et Friends, avec notamment Samuel Bondy, Fancy Cohan et Vincent Serroussi. Mercredi 18 juin à 20h, Espace Rachi. Un événement solidaire au profit des colonies de vacances pour enfants défavorisés, soutenu par les tickets vacances du FSJU. Billets sur billetsweb.fr. Bambi, Paris.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. RCJ. RCJ midi, Elsa Parienté.
Midi 22 sur RCJ en studio avec vous, Mickaël Darmon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et on va commencer bien sûr par cette actualité iranienne et israélienne. L'ambassadeur d'Israël en France qui était dans ce studio ce matin et qui évoque la chute du régime des mollahs en ces termes. Ce n'est pas un objectif, mais c'est quelque chose qu'on espère, qu'on estime souhaitable. C'est pour autant pas le même discours que celui tenu par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Oui, en tout cas, on peut au moins déceler une différence d'intensité qui peut poser question, puisque hier, revenant sur les démentis qu'avait opposé le gouvernement israélien sur le fait que le président Trump avait mis son veto à une possible élimination de Khamenei, en fait, le Premier ministre israélien est revenu sur cette approche-là en disant oui, on pense qu'au contraire que ça pourrait régler les problèmes et que c'est souhaitable et au fond laissant entendre que dès que ce sera possible, eh bien ce sera fait. Donc on peut effectivement remarquer une forme de modulation de fréquence, mais il n'y a pas non plus pour autant de divergence et d'opposition. Mais pourquoi y a-t-il une telle, au fond, un peu plus de prudence de la part de l'ambassadeur Zarqa ici, qui représente Israël en France, d'autant plus que c'est un spécialiste également de l'Iran. Donc peut-être, ça veut-il dire qu'il y a au fond aussi une divergence d'analyse au sein du gouvernement, de l'exécutif israélien, quant à la capacité de la société iranienne de se soulever avec une telle opération massive de la part d'Israël.
Et le président Emmanuel Macron, sur ce sujet-là, qui depuis le G7 au Canada, a exprimé le fait que, en gros, ça se passait jamais bien quand c'était quelqu'un, un régime, en tout cas de l'extérieur, qui essayait de perturber un régime autre. Est-ce que c'est aussi, ça fait partie de cette relation un peu compliquée entre Israël et la France, une énième manifestation de cette évolution?
Oui, de ce point de vue-là, les leçons françaises sont intéressantes quand on voit tout ce qui a été fait en Afrique avec des dirigeants qui ont été souvent bousculés de l'extérieur, en tout cas par l'influence française. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Là, en l'occurrence, il y a la volonté, effectivement, exprimée par Israël de dire, d'abord, il faut, et c'est là la feuille de route qui a été donnée et au fond accordée aussi par le président américain au gouvernement israélien, il faut d'abord, l'objectif étant de détruire les installations nucléaires. On a le sentiment que maintenant c'est passé au second plan et que c'est la destruction du régime qui paraît comme étant l'objectif premier d'Israël. Non, ce n'est pas cet objectif qui est mis en avant. C'est d'abord effectivement la destruction des installations nucléaires. Et même sur ce sujet, il y a question, parce qu'en réalité, là, et le questionnement est légitime. Est-ce qu'un bombardement massif aussi, précis soit-il que le fait de l'aviation israélienne actuellement est de nature à détruire totalement la capacité de faire un programme nucléaire, les compétences, les installations déjà existantes, sachant que bien sûr toutes les installations ne sont pas atteintes. En ce qui concerne le régime, on verra bien dans quelle mesure. On sait qu'il est vermoulu, on sait qu'il y a une très forte opposition interne. Dans quelle mesure ça sera un élément déclencheur? À chaque fois, on dit cela, à chaque fois qu'il y a des secousses internes sur l'Iran, on dit que ça y est, le régime est sur le point de tomber, et il ne tombe pas. Parce qu'il reste, objectivement, très solide. C'est un état policier qui est très organisé, et il faudra encore beaucoup de temps avant qu'effectivement ce régime ne s'effondre, même si on sent bien qu'il n'a pas un avenir très, 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 très important à l'échelle historique.
La France qui a exprimé dès vendredi dernier en son soutien au droit d'Israël à se défendre, pour autant pas engagé concrètement aux côtés d'Israël dans cette opération. Concrètement, que pourrait faire la France?
Alors d'abord, il faut le savoir qu'il y a un dispositif assez important militaire donc dans la région, notamment avec la base interarmée qui se trouve à Abu Dhabi, où l'armée française donc est assez présente. Il y a une base d'aviation en Jordanie également, qui a participé d'ailleurs en avril 2024 à l'interception donc des drones lancés par l'Iran. Et il y a une grande capacité, une grande fluidité d'échange des renseignements. Ce qui semble assez capital pour l'état-major français lorsqu'on les écoute, les experts qui s'échangent en ce moment entre les partenaires britanniques et partenaires américains, israéliens, j'ai pas trop l'impression, mais enfin il y a toujours des relations qui existent. Ce qu'il faut savoir, c'est que on se demande pourquoi au fond la France n'est pas techniquement intervenue comme elle avait fait en avril 2024. En avril 2024, il s'agissait de drones. Et là, la France a la capacité d'intercepter des drones. La France n'a pas la capacité technologique d'intercepter des missiles balistiques. C'est seulement les Américains qui peuvent le faire. C'est la raison pour laquelle on est sur une forme de prudence rhétorique de la part du sommet d'État français.
Cette prudence et en même temps aussi cette ambivalence qu'on a évoquée plusieurs fois avec vous, à la fois quand même d'exprimer ce soutien au droit d'Israël à se défendre à nouveau, et pour autant, dans le même temps, il y a ce qui se passe au salon du Bourget, à quel point ça précarise la relation entre la France et Israël, et qu'est-ce qu'elle signifie là, cette saison 2 du Bourget?
Mais elle signifie que, bon, d'abord, on est au cœur de l'hypocrisie française, hein, qui à la fois, comme vous dites, signale et souligne et rappelle que Israël a le droit de se défendre, mais pas d'exposer les armes qui peuvent servir pour se défendre. Donc, de ce point de vue-là, on y a rien de nouveau sous le soleil. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien la séparation des sujets. Il y a une volonté de la France de rappeler qu'elle est du côté d'Israël lorsque son existence est en jeu, qu'elle est contre l'Iran, qui est aussi une menace pour l'ensemble du monde libre, ça évidemment on le sait, mais qu'à côté de cela, la relation bilatérale entre les deux dirigeants actuellement, donc Netanyahou d'un côté et Macron de l'autre, est exécrable et pourrait nourrir une émission complète pour raconter la chronique de cette mauvaise relation et de ces rendez-vous mutuellement ratés. Donc, ça confirme une fois de plus que effectivement il n'y a pas de volonté de la part d'Emmanuel Macron de donner au fond quelques blancs-seings que ce soit à Benjamin Netanyahou, un tuti personné. En revanche, la France rappelle ce moment pour dire qu'effectivement il y a une défense du côté d'Israël quand son existence est mise en jeu, tout en critiquant aussi la politique d'Israël à Gaza. Bon, on est dans une sorte de, on va dire, plasticité en même temps piste qui ressemble bien en ce moment à la période que l'on vit encore pour 2 ans.
Et ce besoin aussi, il y a peut-être quelque chose de décalé dans le besoin à rappeler toujours, en tout cas sur la situation à Gaza, bien sûr, la nécessité de libération des otages, le cessez-le-feu, l'aide humanitaire qui doit passer, mais aussi à nouveau Emmanuel Macron qui dit ce matin, enfin cette nuit, que la marche vers l'État palestinien, vers la reconnaissance de l'État palestinien est inarrêtable et que c'est totalement prévu.
Oui, d'abord, on sait qu'il est, dans son caractère, peu enclin à reculer, même lorsqu'il s'agit d'avoir commis des erreurs. On sait que c'est un piège diplomatique dans lequel il s'est enfermé pratiquement tout seul et que l'opportunité, on va dire, de ce qui se passe depuis le 13 juin lui permet de sortir par le haut, donc de faire des déclarations ensuite de bon aloi. Et puis, il est le président français, c'est-à-dire qu'en réalité, dans sa tête, ça n'est pas la situation du Proche-Orient qui prévaut. Dans sa tête, c'est la situation française. Et on se souvient, il y a quelques jours, lorsque le fameux rapport sur l'état d'infiltration, de présence des frères musulmans en France est sorti, parmi ses conclusions, il y avait, parmi ses préconisations, il y avait le fait de permettre, de reconnaître, de mettre en avant la reconnaissance de l'État palestinien qui pourrait permettre de juguler certaines craintes ou de calmer certains esprits du côté de la France. Donc, on sent bien que, voilà, il, à chaque fois, on donne un petit peu à chacun, selon la méthode bien connue, qui n'est pas le seul d'ailleurs à pratiquer de ce point de vue-là, elle n'a aucun effet politique.
Dernier point, Mickaël, à la suite de ces mots durs qu'a eu par ailleurs le Premier ministre François Bayrou sur la situation à Gaza, justement, et ce qu'Israël y faisait. Il y a une ambiance comme ça dans le discours politique français qui est évidemment assez tendu, qui tend à criminaliser Israël encore. Et à ce sujet, on écoute l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka.
Ce qui m'inquiète, c'est surtout quand je regarde cette déclaration qu'a fait Mme Autain hier, quand je l'ai lu, parce que je l'ai d'abord lu et ensuite je l'ai écouté, j'étais choqué, parce que je veux dire immédiatement l'image que j'ai eue en tête. Je ne sais pas si vous avez vu un jour un livre des protocoles des sages de Sion, c'est exactement ça. Et l'idée que j'ai eue en tête immédiatement, c'est elle a dû le lire quelque part, cette histoire, parce que elle utilise des termes qui sont vraiment des termes qui sont dans le livre, dans ce texte qui a été écrit par les arts il y a 150 ans, qui 130 ans, qui est un texte antisémite, purement antisémite. Et elle parle aussi du fait que les Israéliens contrôlent le président Trump, et elle dirait presque que les Israéliens, ou bien les Juifs, ça dépend ce qu'elle dit, contrôlent carrément le monde, etc., etc., influencent le monde, mettent en danger le monde. Mais c'est vraiment un terme, c'est un discours qui est presque mot pour mot, on enlève Israël et on met Juif, qui est mot pour mot des discours qu'on entendait dans les 30 du siècle dernier, ou bien quand les protocoles des sages de Sion ont été écrits. Alors donc je ne comprends pas d'où vient ces terminologies, sinon peut-être qu'elle l'a lu quelque part et que ça lui restait dans la tête.
On pourrait enlever Israël et on mettrait Juif, c'est ça l'ambiance côté LFI?
Oui, et de ce point de vue-là, on va dire rien de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que c'est souligné par donc l'ambassadeur lui-même, qui en général fait attention à ne pas trop non plus qualifier la politique intérieure française, mais là Effectivement, il prend cet extrait des discours de Clémentine Autain et il en fait l'analyse pour dénoncer le sous-texte antisémite à peine voilé. Ce qui est intéressant, c'est que il met aussi l'accent sur cette partie de la classe politique française qui, certes, on le sait depuis très longtemps, déroule un discours anti-israélien, anti-sioniste, voire antisémite. On se souvient encore il y a quelques jours la polémique du socialiste Jérôme Guedj contre Jean-Luc Mélenchon, qu'il a insulté, qualifié, entre guillemets, de salopard antisémite. Il est revenu sur une partie des propos. Mais en tout cas, ça note effectivement cette ambiance très tendue autour de ce sujet, autour, comme vous l'avez dit, d'un Israël criminalisé, de juifs de France qui sont essentialisés, qui sont pointés du doigt parce que considérés tous comme étant des représentants de la politique israélienne, du gouvernement actuel d'Israël. Alors qu'en réalité, lorsqu'on voit un peu l'ensemble de l'état de l'opinion française à travers les études, notamment celle de l'IFOP, des études régulières qui sont montrées, c'est une minorité dans le pays. L'immense majorité de la société française partage les vues et comprend les vues donc d'Israël, est convaincue que le Hamas est une organisation terroriste et qu'il ne faut pas forcément lui donner faire le cadeau de lui offrir cette légitimité d'être porteur ou représentant d'un État futur de Palestine. Donc de ce point de vue-là, quelque part, c'est aussi, je dirais, être focalisé sur un sujet qui en réalité ne correspond pas à l'état d'esprit général de la société française. Ça n'est pas l'extrême gauche qui est aux portes de pouvoir, hein, pour le moins. Mais en France, on a une compréhension, à la différence de ce qu'on appelle l'agenda politique et médiatique, de l'écosystème politique et médiatique, on a une compréhension de la démarche d'Israël. Et à ce titre-là, il ne faut pas le perdre de vue.
Merci beaucoup, Mickaël. Midi 35 sur RCG. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant.
RCJ Midi, Elsa Parienté. Au 30 juin, fêtons ensemble le 20e anniversaire du Festival des Cultures Juives. Concerts, rencontres, théâtres, expos, visites, forums associatifs. Découvrez un programme inédit au cœur de Paris. 20e anniversaire du Festival des Cultures Juives. Infos et réservations sur festivaldesculturesjuives.org ou au 01 42 17 10 71. Un événement du Fonds social juif unifié.
Vous avez plus de 60 ans et résidez sur Paris-Île-de-France, vous vous sentez seul ou vous connaissez un proche dans cette situation. Partage le programme de lien social du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Nos bénévoles sont à votre écoute et à vos côtés pour des appels et des visites de convivialité. Véritable soutien pour les aidants, nous participons à améliorer le quotidien de vos proches. Contactez-nous dès à présent au 01 42 17 11 29. 01 42 17 11 29.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. RCJ Midi, Elsa Parienté.
Midi 37 sur RCJ, à notre invité Mickaël Allouche, bonjour.
Bonjour Elsa.
Vous êtes co-auteur avec Anna Valder de cette BD, Monsieur Guevo veut guérir de la Shoah. Peut-être juste pour mettre nos auditeurs et auditrices dans l'ambiance dans un premier temps, comment vous résumeriez, comment on plonge dans cette histoire ?
Bah, c'est l'histoire de M. Guevo qui est en troisième génération et qui va à la recherche d'une histoire familiale pendant la Shoah et peut-être aller plus loin encore pour enraciner cet arbre généalogique, essayer de comprendre d'où vient cette famille avant la Shoah.
Cette histoire, la question de la mémoire, de la transmission, vous, c'était quelque chose qui pesait déjà quelque part dans votre vie, dans votre écriture ?
Alors, en fait, je me suis aperçu à un moment donné dans ma vie qu'il y avait un grand vide culturel du côté de cette partie de la famille. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune histoire de famille. Et donc j'ai décidé d'aller chercher à savoir ce qui a pu se passer il y a 80, 85 ans. Et donc c'est une quête qui a duré 3 ans dans toutes les archives de France, de Turquie, puisque la famille venait de l'Empire ottoman, Smyrne, Constantinople, et puis Jérusalem. À ce moment-là, je me suis tout doucement aperçu que j'étais pas en train de retrouver des gens qui avaient disparu en déportation, qui avaient été assassinés, mais j'essayais probablement de réparer ma mère. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'essayais de réparer ma sœur. Et puis au final, je me suis aperçu que j'essayais de me réparer moi-même.
Guérir de la Shoah, ces termes-là, c'est évidemment pas une maladie, mais c'est un poids qui se transmet sans forcément le verbaliser. Et par ailleurs, cette mémoire, comment vous avez estimé qu'il fallait la faire vivre par des archives, par des récits aussi, par ce lien intergénérationnel assez fort?
Oui, je crois que d'abord, la BD, c'est des outils pour apprendre effectivement à remplir cette histoire de réelle histoire familiale et pas de l'histoire collective qui repose beaucoup sur l'expression les heures sombres de notre histoire. C'est tellement sombre qu'on comprend pas grand chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, on s'éloigne de cette époque, et en s'éloignant, on n'y comprend plus rien. Par contre, on garde vraiment les traumas. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que pour nos quatrièmes générations, on continue à transmettre nos traumas si on les répare pas, mais on ne transmet plus rien et on y comprend de moins en moins de ce qui a pu se passer, en tout cas à cette époque. Donc réparer les vivants, c'est leur raconter des histoires et c'est pouvoir dépasser. Effectivement, Auschwitz, il y a Georges Bensoussan qui dit transmettre autre chose que Auschwitz en héritage. Moi, je dirais transmettre absolument Auschwitz en héritage et donc autre chose.
Il y a aussi la question du 7 octobre que vous n'éludez pas, qui vient percuter aussi cette histoire. On a entendu, j'avais interviewé une rescapée de la Shoah qui me disait au moment où les corps des Bibas avaient été rendus, c'est le pire jour que j'ai vécu depuis mon arrestation. Donc sans entrer dans cette comparaison nécessairement, mais vous écrivez par exemple « La France est ma maison, Israël est mon refuge ». Il y a aussi toute cette notion de se dire « Après la Shoah, c'était ça une des idées principales » et là, ça a volé en éclats.
En fait, depuis la guerre, on vit sur le continent européen dans lequel il y a eu cette histoire. On a ramené des couches de vivants par-dessus. On vit par-dessus, mais mine de rien, on sait que probablement qu'un jour, il faudra partir. En tout cas, on sait que si on part, il y aura toujours Israël. Ça, c'est hyper rassurant. Et ce jour-là, le 7 octobre, je me suis dit, mais comment on va faire pour continuer à vivre ici, en sachant qu'on pourra, on ne pourra pas y échapper s'il se passe quelque chose, quoi. Donc Israël, c'est extrêmement important. Le 7 octobre, ça a été un gouffre. Pendant quelques semaines, et la BD, on ne savait plus comment tirer le fil de cette histoire, comment raconter l'histoire de la Shoah, vu ce qui se passe en ce moment. Et puis très vite, on s'est aperçu que la Shoah, c'est une question du présent. Et pourquoi ? Parce que dès le 8 octobre, on a commencé à parler d'Israël comme un État génocidaire, et puis très vite, ça a glissé vers le peuple génocidaire, et puis très vite, ça a glissé sur... 7 octobre égale Shoah aussi en Israël, on a fait le lien entre les deux. Et donc, il a fallu prendre de la distance et comprendre que la Shoah, c'est la Shoah et qu'il ne faut surtout pas comparer à tous les événements contemporains ou les événements futurs. Replacer les événements dans leur spécificité. La Shoah, c'est un processus. C'est pas que un drame, c'est un processus, notamment un processus aussi antisémite. Et le comprendre, c'est peut-être se réarmer face à notre actualité.
Vous écrivez, j'ai lu qu'il fallait 8 à 10 générations pour que la culture d'une population immigrée disparaisse, mais avec la Shoah, il a suffi d'une seule génération. Pour vous, il y a quelque chose voilà, de l'ordre de la disparition qui est évidemment entier, total.
Alors, la disparition totale, sauf les gros mots et les recettes de cuisine. Alors, c'est très important pour moi que ma fille nous fasse, j'en parlais tout à l'heure, nous fasse des burekas, par exemple, parce que c'est un peu comme se souvenir de quelque chose, d'une histoire qui n'a jamais été racontée. Voilà, se remémorer cette histoire juste par des recettes, ben, c'est pas suffisant, évidemment. Et donc, dans cette quête familiale, il a fallu revenir avant. Et donc, il a fallu se réinscrire dans une histoire plus longue, et on a été jusqu'en 1492 en fait, jusqu'à l'expulsion des Juifs d'Espagne, et on a trouvé un pirate juif ottoman qui a été le bras droit de Barberousse et qui comme beaucoup de Juifs après l'expulsion se sont mis dans la piraterie pour viser les bateaux les espagnols notamment. Et donc, ce pirate juif, eh ben, il était très ancré dans son identité. Et on en a fait mon arrière-grand-père. C'est-à-dire que mon fils voit en ce personnage emblématique, lumineux, qui s'appelle Sinan Rey, Sinan le juif, eh ben, il croit encore maintenant que finalement, c'est son arrière-grand-père. On lui dit, bah, c'est possible, il a la même trajectoire que nos familles, pourquoi pas.
Ce va-et-vient permanent dans le livre entre le passé et le présent, est-ce que vous l'avez souhaité? Quel sens vous y donnez?
Je crois que M. Guévaux, c'est toutes les troisièmes générations, donc ce n'est pas qu'un personnage. D'ailleurs, il n'a pas de visage, il est très universel. Et ces troisièmes générations, eh ben, on est à la fois dans notre temps et à la fois encore un peu dans le passé. Et on doit à chaque fois faire ce va-et-vient, peut-être pour échapper à une identité qui est trop statique, pour échapper à ce qu'on identifie des Juifs, c'est-à-dire qu'on est tout sauf victime, et donc on doit dépasser, on est en permanence en mouvement, on doit dépasser cet état de victime dans lequel on peut se sentir. Guérir de la Shoah, c'est une nécessité se réinscrire dans une identité forte et pouvoir affronter l'avenir. La bande dessinée, c'est un peu un coup de poing, c'est-à-dire visuellement, on a des couleurs extrêmement vives, on veut surtout pas qu'on s'apitoie sur le sort de cette histoire, mais qu'on comprenne que ceux qui reprennent à bras-le-corps l'histoire du passé, c'est des gens qui sont très vivants et qui veulent justement en faire quelque chose, se réinscrire, se réapproprier cette histoire pour pouvoir avancer dans la vie. Et donc c'est une BD qui milite pour justement la culture juive vivante. On aime bien les Juifs morts, on veut montrer que les Juifs vivants sont très intéressants et certainement aussi très présents dans notre quotidien, et on veut exister, quoi.
La culture juive, pour vous, justement, comment vous la définissez? Les cultures juives.
Oui, je pense que c'est les cultures juives, c'est être bien dans sa filiation.
Vous décrivez à un moment le mémorial, vous parlez beaucoup hein, des archives de ce qui est consigné. Le mémorial est un immense gruyère, des murs de pierre imposants et des fiches de déportés incomplètes. C'est une forme de violence aussi, quelque part.
Que d'aller au mémorial?
Non, que de faire face à ces fiches, vous dites, ces fiches, ces documents qui ne sont pas nécessairement complets, de se dire c'est un chemin, c'est un mauvais jeu de mots, mais un chemin de croix,
oui.
Voilà, oui. D'aller retrouver oui. Sa mémoire.
Toute la quête tourne autour de ce qui s'est passé, mais à un moment où il a fallu affronter. Donc il faut se préparer à affronter, et quand on affronte, c'est le moment probablement où on se répare. Et le mémorial, c'est pas un lieu de commémoration, c'est un lieu où on inscrit les noms. Et c'est là où on n'est pas sur une marche mortifère. Enfin, en tout cas, c'est pas, on propose pas dans la BD une promenade commémorative. Ce qu'on propose, c'est au contraire de donner les noms de ces gens qui ont disparu pour nos quatrièmes générations. Donc, c'est encore une fois, c'est la Shoah comme une question du présent, surtout pas comme une question seulement du passé.
L'importance du nom aussi, justement.
Le nom NOM, tout à fait. L'importance du nom. Se réinscrire dans sa filiation, c'est aussi aller se retrouver dans le nom. Et puis, Et puis le non, c'est exister malgré la disparition, c'est faire en sorte que les disparus soient parmi nous, que ce soit pas simplement des fantômes, mais tout d'un coup leur donner un nom, voire même un visage, c'est ne plus être hanté par ces fantômes.
Et le fait que justement ce soit assez agréable à lire, vous l'avez dit, c'est couleur vive, c'est une façon de quoi de dire on lutte contre, vous l'avez dit, ce statut de victime, mais aussi plus largement contre cette noirceur et la récupération qui en est faite aussi.
Oui, je crois que le but aussi de la bande dessinée, c'est de s'adresser à tous, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs. Beaucoup de gens viennent me voir en m'expliquant, voilà, moi, alors d'abord, je n'ai pas d'histoire en lien avec la Shoah, mais j'ai aimé, enfin ça m'a parlé, c'est très universel, etc. Et moi, je leur dis tout de suite, mais est-ce que vos familles sont européennes? Et souvent, on me répond oui, et à ce moment, je leur dis, mais vous avez donc une histoire de la Shoah, c'est pas qu'une histoire de juifs. Et aller chercher au Mémorial de la Shoah, par exemple, ce week-end, il y a eu le Salon du Livre et il y a eu une conférence autour de gens qui ont été rechercher leur histoire familiale de juste. Et il y en a un qui disait, mais en fait, quand j'ai pu récupérer cette histoire-là, ça m'a permis de me réinscrire ou réenraciner dans mon histoire de juste. Et en fait, une fois que tous, on peut se réenraciner dans cette histoire qui est mal comprise, encore une fois, qui est trop difficile, donc on n'a pas envie de voir. Une fois que tous, on peut se réinscrire là-dedans, on pourra peut-être vivre les uns avec les autres. Mais là, c'est peut-être un peu tard.
Justement, sur le côté universel de cette mémoire, vous avez l'impression que c'est quelque chose dans, justement, ce fameux devoir de mémoire dont on parle, qui a été plutôt raté, plutôt réussi?
Alors, on insiste bien sur le fait que c'est un devoir de transmission, surtout pas un devoir de mémoire, merci, et que le devoir de mémoire est culpabilisant, et qu'effectivement, on glisse sur le devoir de transmission, c'est-à-dire le devoir d'histoire, on doit transmettre des faits, des lieux, et que la mémoire, c'est tout ce qui reste d'une histoire qu'on ne comprend pas, et donc arriver à poser des faits, des lieux, des noms, c'est se réapproprier cette histoire pour pouvoir avancer et mieux comprendre l'avenir, le présent.
Justement, sur cette transmission, peut-être vous, dans votre famille ou ailleurs autour de vous, comment on parle de la Shoah à des enfants?
Alors, jusque-là, on n'en parlait pas, ou on en parlait d'un point de vue très historique, avec un grand H, et en disant bien sûr que de toute façon, on est en France, probablement dans quelques années, on partira, et que si on parle trop des Juifs, ça veut dire que vous êtes une cible, quoi. Bon, alors maintenant, le livre propose de sortir de l'ère victimaire pour être moins fragile, pour être perçu aussi comme moins fragile, donc moins une cible, et sortir de la définition qu'on fait de nous, les bourreaux, en fait. Ne plus être victime pour ça. Ça, c'est vraiment un point capital. C'est aussi, moi j'ai retrouvé notamment tout un tas de descendants de branches coupées après la Shoah. Les retrouver, c'était une manière de faire un gros fuck au projet nazi. Donc on s'est retrouvés tous ensemble, même si on n'a pas vraiment d'affinité. J'ai été aussi dans le groupe de parole de Nathalie Zaïd, des enfants cachés, des descendants d'enfants cachés. Ça a été comme si je parlais enfin à mes grands-parents ou qu'ils me racontaient ce qu'ils ont pu vivre. Et j'avais la sensation de faire partie d'une grande famille. C'est-à-dire qu'on est tous très isolés avec les histoires de la Shoah. On est isolés finalement de nos filiations. On est isolés peut-être des communautés d'une manière ou d'une autre. Et on vit seul, très seul. Et travailler sur cette guérison, c'est se retrouver, et se retrouver soi, et se retrouver avec les autres, et se retrouver plus assuré dans ce qu'on est, en fait.
Merci beaucoup, Mickaël Alouche, co-auteur de Monsieur Guevo veut guérir de la Shoah, avec Anna Avelder. Merci d'avoir été notre invité ce midi sur RCJ, midi 52. Et on retrouve tout de suite Marc-Olivier Tinsit.
La chronique médicale, Marc-Olivier Tinsit.
Chères auditrices et chers auditeurs, il y a 15 jours, on apprenait par voie de presse la réalisation d'une première mondiale dans un hôpital californien, à savoir la transplantation d'une vessie chez un homme de 41 ans. S'agit-il d'une révolution médicale ou d'un simple essai qui doit encore être transformé? Alors, pour vous faire votre propre idée, je vais vous expliquer trois choses. Premièrement, qu'est-ce que la vessie, dans quelle situation doit-on la retirer? Ensuite, quelles sont les options actuellement disponibles pour la remplacer? Et enfin, quelles sont les interrogations liées à cette première mondiale? Alors, la vessie, c'est à la fois un réservoir et un organe qui permet d'uriner. L'urine, vous le savez, est produite par les reins. Elle descend dans la vessie et en se remplissant, la vessie déclenche l'envie d'uriner, ce qui est rendu possible par des mécanismes neuromusculaires impliquant à la fois notre système nerveux autonome, celui qu'on ne contrôle pas, et notre système nerveux volontaire. Ainsi, on ressent l'envie d'uriner, on est capable de relâcher notre sphincter ou de le contracter, mais on ne contrôle pas nous-mêmes la contraction de la vessie ou l'ouverture de son col, c'est-à-dire de son bec verseur. C'est donc un réservoir, mais un réservoir un peu sophistiqué. Historiquement, la vessie était retirée dans la tuberculose, et c'est notre maître Couvelaire Anneker qui avait popularisé cette lourde intervention dans les années 50. Aujourd'hui, nous sommes amenés à retirer des vessies. On appelle cela une cystectomie, le plus souvent en raison d'un cancer de la vessie ou parfois d'un cancer des organes de voisinage envahissant la vessie. Nous réalisons aussi des ablations presque totales de la vessie dans certaines maladies neurologiques où les vessies ne fonctionnent pas et abîment gravement les reins. En France, par exemple, environ 3 à 4 000 patients subissent une cystectomie chaque année. La vessie est alors remplacée par de l'intestin. On utilise une quarantaine de centimètres du petit intestin, parfois du côlon, pour fabriquer un réservoir que l'on rebranche là où il faut. Mais ce n'est pas toujours possible et nous sommes parfois amenés à dériver l'urine par voie externe, par la peau, à travers un orifice que l'on appelle une stomie. L'urine est ainsi recueillie dans une poche externe. Lorsque nous avons pu fabriquer ce réservoir avec de l'intestin à la place de la vessie, ce réservoir ne fonctionne pas vraiment comme une vessie normale. On n'a pas ce contrôle volontaire directement dessus, et puis sa paroi n'est pas du tout la même qu'une vessie, et donc ne possède pas ce système autonome de remplissage, de contraction, de vidange. De plus, contrairement à la vessie, l'intestin possède une muqueuse capable de réabsorber, puisqu'en temps normal, on absorbe nos nutriments, et elle se retrouve donc là à réabsorber un liquide un peu trop acide, ce qui conduit à des troubles métaboliques que l'on appelle de l'acidose. Il y a donc des conséquences de ce remplacement de vessie. Les patients sont parfois obligés de s'introduire une petite sonde régulièrement, on appelle ça un auto-sondage pour mieux la vider, mais c'est une solution que l'on fait depuis des décennies, et puis surtout ce n'est pas un organe vital. Ce qui soulève donc des interrogations légitimes sur cette histoire de transplantation, puisque la transplantation d'un organe implique deux choses. Premièrement, l'utilisation de médicaments immunosuppresseurs, qui ne sont pas anodins, ils augmentent le risque infectieux, les infections sont la première cause de mortalité des patients greffés d'un rein, par exemple, et augmente aussi le risque de plusieurs cancers, comme certains cancers de la peau ou des cancers du sang et du système lymphatique. Deuxièmement, la transplantation d'un organe n'est jamais éternelle, il y a toujours un certain degré de rejet, sauf bien sûr entre des vrais jumeaux. Donc une greffe est une solution qui est inscrite dans une temporalité plus ou moins limitée. Dans le cas du malade californien, ce qui avait motivé cette greffe, c'est que le patient souffrait d'insuffisance rénale. Il était dialysé, il avait besoin d'une greffe rénale et la greffe de la vessie a été faite en même temps que cette transplantation rénale. Le patient devait donc de toute façon avoir un traitement immunosuppresseur pour son rein. On n'aurait certainement pas exposé le patient à un tel traitement s'il n'avait pas été greffé d'un autre organe vital. Les indications sont donc limitées à des patients qui ont besoin d'un autre organe ou alors à des patients qui ont déjà été transplantés en antérieurement et qui sont donc déjà sous immunosuppresseurs. La greffe de la vessie n'implique alors pas de traitement supplémentaire et elle devient éthiquement raisonnable. Enfin, la principale limite est bien sûr la fonction de cette vessie transplantée, car les chirurgiens n'ont pas transplanté de nerfs. L'innervation de la vessie est très complexe et nous ne savons pas aujourd'hui du tout comment va fonctionner cette vessie, comment elle va se vider, et il n'est pas du tout certain qu'elle fonctionne mieux que les actuelles vessies que nous fabriquons à partir d'intestin. C'est donc une évolution plus qu'une révolution, et nous verrons dans les années à venir les autres options, comme par exemple l'utilisation de vessies animales, ou encore l'utilisation de réservoirs fabriqués à partir des cellules du patient mis en culture, des tissus de synthèse, on appelle ça de l'ingénierie tissulaire, qui est un sujet sur lequel de nombreuses équipes travaillent depuis des décennies, avec quelques succès partiels à ce jour. Ne prenons donc pas les vessies pour des lanternes et passons une bonne journée ensemble sur RCJ.
Merci beaucoup Marc-Olivier. Tim Cite et la réflexion philosophique de la semaine avec vous, Gabriel Alperne.
La philo, Gabriel Alperne.
Bonjour à tous. Cela m'amuse toujours, lorsqu'il y a des événements, des séminaires, d'organiser les comportements humains. La plupart des personnes, par exemple, se positionnent dans les derniers rangs comme si elles avaient peur des premiers rangs. Peut-être faites-vous partie, vous qui m'écoutez ou vous qui me lisez, des amateurs des derniers rangs. Nous avons beau être devenus adultes, il reste toujours en nous, du moins chez certains d'entre nous, cette angoisse née à l'école où être assis au premier rang signifiait courir le risque d'attirer l'attention du professeur, et donc d'être interrogé sur sa leçon, ou du moins d'être obligé de suivre le cours attentivement, plutôt que de rêvasser, dessiner ou bavarder avec ses voisins. Si cette angoisse n'est pas née à l'école, elle est peut-être née au cirque, ou à l'occasion d'autres spectacles où nous emmenaient nos parents, et où ceux qui étaient assis au premier rang étaient appelés à y participer, et donc à courir le risque de recevoir une tarte à la crème dans la figure ou de disparaître dans la machine du magicien. Bref, beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse et une vraie scission de la classe entre ceux que l'on appelle les premiers de la classe, les faillots, et les derniers de la classe, les cancres. Choisissez votre camp, mesdames et messieurs. Personnellement, je n'ai jamais vécu cette angoisse du premier rang car, étant adepte de ce rang, je me suis rapidement rendu compte que les professeurs, paradoxalement, ne le regardent que très rarement et qu'il y était donc bien plus facile de penser à un milliard d'autres choses. Mais ce n'est pas pour ça que je vous raconte tout cela. Si je vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que cette vieille bataille entre les faillots et les cancres, entre les premiers et les derniers, ne cesse pas de se jouer encore et toujours, y compris dans nos relations professionnelles, maintenant que nous sommes devenus grands. L'exemple le plus frappant de cette bataille est la réunion professionnelle, bien sûr. Il y a ceux qui arrivent toujours en avance et ceux qui arrivent toujours en retard. Il y a ceux qui ont pris soin d'apporter leur matériel, ordinateur, cahier, stylo, et ceux qui l'ont oublié, qui doivent repartir le chercher ou demander une feuille à leur voisin. Il y a ceux qui ont lu les documents envoyés en amont de la réunion et qui s'y sont donc préparés, et ceux qui n'en ont pas eu le temps et qui découvrent le sujet dont il sera question.